Voici le journal de Bernadette Chamonaz. Bonjour Bernadette.
Bonjour, il m'a traité de singe, mais c'est lui qui est en cage. Prince Guano visé par des insultes racistes lors du match Dijon-Amiens hier soir. L'homme est en garde à vue, il y aura des suites judiciaires. Gilets jaunes, premier samedi sous la loi anti-casseurs. La mobilisation devrait rejoindre celle de la Ligue des droits de l'homme qui demande la suppression de cette loi. L'extrême gauche européenne réunie à Stockholm pour faire entendre sa différence. Nous serons dans la capitale suédoise. Verdict au procès Madani, 6 à 10 ans de prison pour les trois jeunes qui projetaient des attentats. Et puis le Disqueur Day, un moment crucial pour les disqueurs indépendants et les collectionneurs.
Les invités de la matinale, à partir de 7h50, Patricia Martin, vous recevrez...
Anouk F., professeur des écoles en zone d'éducation prioritaire, qui publie un livre intitulé « Merci maîtresse ».
Et puis à partir de 8h20, la députée de la France Insoumise, Mathilde Panot, députée de la France Insoumise. Donc question ce matin sur les traités européens que les gauches radicales voudraient renégocier.
France Inter.
Il m'a traité de singe, mais c'est lui qui est en cage. Le footballeur Prince Guano, visé par des insultes racistes. Ça s'est passé lors du match Dijon-Amiens hier soir. L'auteur est en garde à vue. Il y aura des suites judiciaires.
Oui, quand la dignité répond à la bêtise. Prince Guano porte si bien son prénom, si digne. Le capitaine du club d'Amiens, quand hier soir, alors que le match contre Dijon est presque terminé, on entend encore, une fois de trop, dans les tribunes, ce sale bruit raciste. Thomas Nougaillon.
Prince Guano a entendu ses cris de singe après avoir dégagé un ballon en corner alors qu'il était en train d'encourager ses coéquipiers. Il a pu désigner cet homme qui l'invectivait depuis la tribune. Le pseudo-supporter a très vite été interpellé.
Il m'a insulté de singe, mais c'est lui qui était en cage. Je peux porter plainte contre lui. Il peut avoir des poursuites judiciaires contre lui. Mais avec mes valeurs, l'amour, la croyance, la foi, je lui pardonne.
La connerie humaine me met en rage. Voilà la réaction en forme de coup de poing d'Antoine Comboiré, le coach de Dijon, lors de la conférence de presse d'après-match.
J'ai pu comprendre que l'idiot, il a été arrêté, donc ça c'est bien. Mais c'est très grave, et puis après je suis peiné pour lui, pour Guano, pour le joueur.
Le joueur a décidé de ne pas porter plainte, contrairement au Dijon Football Côte d'Or, qui lui va saisir la justice. Antoine Comboiré.
De voir mon club porter plainte, voilà, ça me ravit, ça me rassure. C'est une décision forte et importante.
Dans un communiqué, la Ligue de foot professionnelle apporte son soutien à Prince Guano, condamne ces insultes racistes et annonce que la commission de discipline va se saisir du dossier dès mercredi prochain.
Oui, on peut rappeler qu'une autre affaire de cris racistes qui avait touché le joueur Mario Balotelli en février 2018 a, elle, été classée sans suite. Sur le plan sportif, le match s'est soldé par un nul, 0-0. Autre match de Ligue 1, Nantes-Lyon, nouvelle défaite de l'OL, battue 2-1. En sport toujours, l'athlète Clémence Calvin devrait pouvoir participer demain au Marathon de Paris. Le Conseil d'État a levé hier soir la suspension pour dopage ordonnée par l'Agence française de lutte contre le dopage.
La mobilisation des Gilets jaunes, c'est le premier samedi sous la loi anti-casseurs.
Promulguée jeudi, elle peut en effet s'appliquer aujourd'hui. Dissimuler son visage de quelque manière que ce soit sera considéré comme un délit. Fouilles dans les sacs, dans les voitures seront autorisées. Le Conseil constitutionnel a censuré la disposition qui donnait au préfet le pouvoir d'interdire à certaines personnes de manifester, mais la Ligue des droits de l'homme demande la suppression pure et simple du texte. Son avocat Arié Halimi au micro de Benjamin Boucriche.
Cette loi dans laquelle subsiste la possibilité de sanctionner pénalement des personnes qui se dissimulent ne serait-ce que partiellement le visage et qui emporte la possibilité de faire des contrôles d'identité et des fouilles systématiques autour des périmètres de manifestation est une grave atteinte à la liberté de manifester. Ces dispositions ont pour vocation d'empêcher les gens de venir manifester et c'est un droit fondamental dans notre République. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des violences que l'on doit porter atteinte à des principes fondamentaux. Nous nous battrons jusqu'au bout pour que cette loi soit abrogée. Au même titre que les lois scélérates ont été abrogées par M. Mitterrand, c'est un combat qui peut être long, mais nous ferons tout pour qu'elle soit abrogée et qu'elle ne subsiste pas parce qu'elle porte atteinte de manière considérable à ce droit important, fondamental de notre République, qui est le droit de manifester.
Et la Ligue des droits de l'homme appelle donc à manifester aujourd'hui contre cette loi dans une cinquantaine de villes en France. À Paris, certains gilets jaunes pourraient rejoindre la marche qui partira de la place de la République. Y aura-t-il un regain du mouvement gilet jaune alors qu'on attend dans les jours qui viennent les annonces du chef de l'État après le grand débat? On suivra tout particulièrement la manifestation de Toulouse, choisie capitale régionale pour ce 22e samedi. L'extrême gauche européenne s'est-elle donné rendez-vous à Stockholm pour un sommet du plan B? Comment changer l'Europe sans prendre la porte de sortie? Laurence Perron est l'envoyée spéciale de France Inter dans la capitale suédoise.
C'est le baptême du feu de Manon Aubry, la toute neuve insoumise tête de liste aux européennes. Mais c'est Éric Coquerel, le député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, que l'on croise à la sortie de l'aéroport de Stockholm. Ça tombe bien, c'est lui l'inventeur du sommet du plan B.
C'est le cinquième sommet du plan B qui a débuté à l'hiver 2015, après Paris, à Madrid, Rome, Copenhague, et là maintenant c'est Stockholm.
Dans l'enceinte du Parlement suédois vont donc se croiser ce week-end les éminences de tous les partis européens de la gauche dite radicale et de transformation écologique. Avec ce mot d'ordre, comment sortir des traités?
Beaucoup nous disent, ah là là, mais vous risquez de mettre à mal la construction européenne. Mais la construction européenne, elle s'auto-saborde aujourd'hui. Par les politiques qui nient en réalité à la fois la souveraineté mais aussi les intérêts des peuples, ça donne le Brexit. Si on continue sur cette voie, ça sera l'explosion. Et donc la seule chance en réalité de sauver un projet européen, c'est justement d'être capable de rompre. Et pour rompre, il faut un plan B.
Voilà. Pas question d'exit européen donc, mais l'idée est de construire une force commune au Parlement européen pour désobéir, je cite, à l'ordolibéralisme porté par le couple franco-allemand dans un moment où la droite extrême reprend partout des couleurs. Vaste programme.
Au Soudan, situation toujours bien confuse, le ministre de la Défense qui avait pris la tête du conseil de transition au lendemain de la chute d'Omar el-Béchir a démissionné pour être aussitôt remplacé par un général. Pas de quoi calmer les manifestants qui veulent un gouvernement civil.
Ils voulaient commettre des attentats, et bien ils ont été condamnés hier soir à Paris.
Par le tribunal correctionnel à des peines de 6 à 10 ans de prison ferme, le maximum encouru. Ils avaient été arrêtés avant de passer à l'acte. Parmi ces trois jeunes, Inès Madani, qui avait projeté aussi en 2016 l'attentat à la voiture piégée près de Notre-Dame de Paris. Sophie Parmentier suivait le procès.
Un sourire se dessine sur le visage enfantin d'Inès Madani à l'énoncé du jugement. 8 ans de prison au lieu des 9 ans requis par le procureur. Dans le box, elle est la seule de la bande à écoper d'une peine moins lourde que les réquisitions. Le tribunal vous déclare coupable, mais le tribunal vous a écouté avec attention. Cette attention que vous avez recherchée, lui dit la présidente Isabelle Prévost-Desprez. Durant ces 3 jours d'audience, la juge a perçu combien Inès Madani a pu être une adolescente isolée dans sa famille, se sentant mal aimée. Jusqu'à trouver ce groupe Telegram sur lequel un djihadiste lui a donné une mission, séduire des recrues sous un pseudonyme d'homme pour rejoindre Daesh en Syrie ou commettre des attentats en France. Ces actions violentes, vous avez toujours admis que votre cellule terroriste voulait les commettre, l'admoneste la juge. Votre détermination marque votre dangerosité. Menotte dans le dos, Inès Madani repart en détention, à l'isolement. En septembre, c'est une cour d'assises qui la jugera pour l'attentat manqué de Notre-Dame de Paris avec un commando de femmes. La peine encourue sera cette fois la perpétuité.
Et vous pouvez retrouver l'ensemble du compte-rendu du procès sur franceinter.fr. Album inédit, Collector, c'est le jour ou jamais pour les dénicher, c'est le Disquer Day, et on assiste même de plus en plus à la résurrection du vinyle. De plus en plus d'ateliers se constituent, 5 ateliers de pressage il y en a actuellement en France, dont le tout dernier que vous avez visité à Châtellerault dans la Vienne, Valentin Boissy.
Fabriquer un vinyle peut se comparer au développement d'une photo car on utilise le système de négatif. Et de l'avis de Sylvain Baudet, co-créateur de Vinyl Records Makers, fabriquer un vinyle c'est en réalité très rapide.
Ça dure 30 secondes. Ce PVC, il est inséré dans la presse entre les moules où sont installés justement ces fameux négatifs par l'effet d'une presse hydraulique. On va venir presser la matière plastique. Une fois que le disque est pressé, on va le laisser refroidir entre 12 et 24 heures.
Le créneau de cet atelier est celui des petits labels indépendants qui ont parfois des difficultés à produire leur vinyle, comme nous l'explique Sylvain Baudet.
Tous nos potes qu'on croisait au concert, qui avaient des groupes, disaient que c'était de plus en plus compliqué de pouvoir faire presser un disque vinyle avec le renouveau justement qui a été engendré par les grandes maisons de disques.
Leur carnet de commandes s'ouvre aujourd'hui à des groupes de l'étranger, mais aussi des groupes qui ont une certaine notoriété. Antoine Bastien est le co-créateur de cet atelier.
On a envoyé des disques en Finlande, en Suisse. On a travaillé avec les immanquables locaux de Carpenter Brut, qui est une renommée internationale aujourd'hui.
Et Carpenter Brut leur a offert un sacré coup de pub car c'est aujourd'hui leur commande record avec plus de 6000 disques produits.
Voilà, et des vinyles rares à dénicher donc dans chez plus de 200 disquaires indépendants français aujourd'hui. Le vinyle, c'est du plastique, c'est dommage quand même.
Le plastique, c'est fantastique. Le vinyle, il faut surtout retourner les disques.
Ah non,
tous
le
les
plastique,
cas.
Ce n'est pas fantastique du tout. Oulala.
Il faut surtout retourner la galette tous les 15 minutes, et ça, on avait un peu oublié. C'était le journal de Bernadette Chamonaz.